France Inter.
Pas besoin de chercher bien loin. Moi, je connais un coin. Un petit bout de bambou, un fil et un verre au bout. Si l'on ne prend rien du tout, on dort et puis c'est tout.
Un petit bout de bambou, un fil et un verre au bout. Ça n'y paraît pas beaucoup, mais la vie a du tout.
Très belle ode au bambou. Bonjour Jeanne Famtran.
Bonjour.
L'acier vert, c'est le surnom que vous donnez au bambou dans votre livre qui appelle à révolutionner nos manières de construire, nos manières de penser à l'aide de ce matériau naturel incroyablement solide et plein de vertus écologiques et philosophiques. Alors Jeanne Famtran, vous habitez depuis 3 ans en Thaïlande. C'est ce qui vous a inspiré votre enquête parce que dites-vous, le bambou est absolument partout autour de vous en Thaïlande. En quoi est-ce que le bambou, c'est une alternative sérieuse à des matériaux de construction comme le béton au hasard et par exemple.
Alors le bambou c'est en effet une alternative très sérieuse, notamment dans les zones tropicales, parce que c'est un matériau low-tech par excellence. Donc low-tech ça veut dire qu'il est utile. Vous connaissez la capacité de transformation du bambou, que ce soit dans la construction mais aussi dans des choses beaucoup plus petites, des petits objets qu'on peut tisser, etc. Voilà, de la vannerie, etc. C'est un matériau qui est low-tech parce qu'il est extrêmement accessible, peu coûteux, léger, local dans beaucoup d'endroits du monde et durable, extrêmement écologique. C'est la plante qui pousse le plus vite au monde, qui se renouvelle toute seule, donc on ne peut pas déforester une forêt de bambou.
Ni un jardin, simplement, j'en ai parlé avec toi ce week-end précisément.
C'est la plante qui stocke le plus de CO2 au monde et notamment grâce à sa capacité à se substituer à des matériaux très polluants que sont le béton, au hasard, l'acier ou encore le plastique.
Vous, quand vous regardez un bambou, vous pensez à votre famille. Et ça, c'est intéressant.
Oui, je pense à ma famille, c'est vrai, parce que le bambou est une herbe, déjà, rhizomatique. C'est-à-dire qu'elle a cette espèce de racine souterraine qui donne des racines vers le sol, enfin vers le sous-sol, et des tiges vers le ciel. C'est ça qu'on appelle des rhizomes. Les rhizomes du bambou, comme vous le savez peut-être, sont particulièrement actifs. C'est même ce qu'on pourrait appeler le cerveau du bambou, puisqu'il stocke la nourriture, l'eau, etc. Et qu'il a une capacité à se promener, à aller voir toujours ailleurs. Assez exceptionnel.
Alia Bengana, dans votre BD Béton, enquête en sable mouvant, vous étudiez des alternatives au béton que sont la paille, le bois, la terre. Pas de bambou. Vous avez déjà construit des trucs en bambou, vous ? Ou c'est un angle mort, un peu ?
Non, j'ai déjà fait quelque chose en bambou, parce que j'adore ce matériau. Moi, ce que je trouve fou avec le bambou, c'est que vous coupez, ça repousse. Le bois, il faut replanter. Le bambou, ça repousse tout seul. Donc, c'est en soi, c'est un matériau génial. Et la seule fois de ma vie où j'ai vraiment eu une expérience avec du bambou, c'était en Haïti. Et on avait dessiné une maison, enfin, un prototype pour un resort avec des sacs de terre. Donc, vraiment, des sacs de riz, vous voyez le sac de riz, mais remplis en terre, donc c'est vraiment une technique antisismique, et ensuite une toiture en bambou. Et donc c'est là que j'ai eu des bribes, on va dire,
de ce que ça pouvait être.
Voilà.
En effet, oui, c'est tout à fait vérifié que dans les zones sismiques, ils construisent de plus en plus en bambou, ils reconstruisent de plus en plus en bambou, puisque c'était une plante très utilisée en construction, on s'est remis à utiliser le béton, et puis maintenant on repasse au bambou.
Mais qu'est-ce qu'on peut... Enfin, on peut le faire pousser partout et l'appliquer comme une sorte de recette miracle. Parce que ça fait un peu comme les éoliennes, j'ai l'impression, c'était la folie. On en a foutu partout, puis un peu, on en est un peu revenu parce que ça dépend des conditions météo du pays. Le bambou, en fait, c'est tout terrain, selon vous, Jeanne ?
Oui, alors, en effet, le bambou, déjà, il y a 1600 espèces. Hein, donc, quand on dit le bambou, oui, c'est quand même un
c'est
petit peu...
C'est presque raciste, finalement.
Oui, voilà. J'ai l'impression, Marine.
J'ai pas osé le dire. Mais les bambous ont une capacité d'adaptation extraordinaire, avec une capacité d'adaptation dans différents sols, différents climats. Les seuls continents où ils ne poussaient pas naturellement, c'était l'Europe et les pôles. Donc sachez que les bambous que nous avons en Europe ne sont là que depuis le 19e siècle.
Donc ils ont été complètement importés.
Mais importés, ils se sont bien... grâce notamment à la route de la soie. Ça fait partie des apports de la route de la soie.
Mais alors,
ils se sont très bien adaptés, un peu trop au goût de certains.
En France, on n'a pas le droit de faire construire sa maison en bambou parce que c'est justement une herbe et pas un arbre.
Oui, ça... en termes de normes, c'est un peu compliqué. Bon, il y a un vrai lobby du béton et du bois, hein. Mais il y a aussi des normes qui sont un petit peu compliquées, autant pour des forêts de bambou. Enfin, une forêt de bambou n'est pas une forêt, et une maison en bambou n'est pas une maison en France. En
fait. Donc ça, on peut pas l'assurer.
Voilà.
De manière générale, on peut pas avoir des maisons en herbe.
Voilà.
Merci pour la pression. J'avais un petit projet ciboulette, là, mais tant pis, on va pas agrandir.
C'est quelque chose qu'on observe beaucoup, ce retard peut-être de la législation et des normes sur les nouvelles façons de construire, Alia Bengana.
Oui, par exemple, en France, on n'a pas de normes pour construire en terre crue, alors qu'on a encore un tiers de l'humanité, voire la moitié, qui vivent dans des habitats en terre crue. Le seul pays qui a des normes pour construire en terre crue aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Et puis, il y a d'autres pays qui sont en train de regarder l'Allemagne pour copier un peu les normes, comme par exemple l'Autriche, la Belgique. Et en France, il y a un projet qui s'appelle le PNTER, qui est en train d'explorer, on espère, l'arrivée de normes de construction pour la terre crue.
Donc ni bambou ni terre crue pour l'instant. Jeanne Fentran, vous parlez aussi de la place du bambou sur le terrain plus philosophique, plus spirituel en Asie. C'est bien sûr, c'est bien simple, vous dites qu'il est partout. Comment ça se manifeste par exemple dans des mythes fondateurs de la...
Oui, alors le bambou est vraiment à l'origine de nombreuses spiritualités, que ce soit l'animisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme. C'est assez impressionnant. Il y a de nombreux mythes des origines aux Philippines, à Taïwan, en Malaisie, qui racontent que l'homme et la femme sont nés d'une pousse de bambou.
Ah oui.
Et puis il y a aussi au Vietnam une très très jolie légende qui raconte aussi, enfin qui nous fait prendre conscience plutôt de la similitude entre nos articulations en tant qu'être humain et ceux du bambou. Parce que quand vous coupez un bambou, il y a des nœuds et ça ressemble vraiment à un tibia. Moi ça m'a beaucoup troublée quand je l'ai fait, tant par le velouté de la peau du bambou qui ressemble à notre peau que par ces sortes d'articulations qui ressemblent aux nôtres, sans parler de sa verticalité et sa souplesse, qui sont quand même très très différentes de celles d'un arbre.
Et justement, ça nous vient même en aide au combat, comme au Vietnam où on parle de diplomatie du bambou. C'est quoi la diplomatie du bambou ?
Alors, la diplomatie du bambou, c'est très intéressant. C'est une expression qui vient pas de moi, qui vient d'un secrétaire général du Parti communiste vietnamien et qui en dit long un petit peu sur ce qu'on pourrait appeler la souplesse ou la versatilité ou le suivisme de certains pays que sont le Vietnam ou la Thaïlande, qui sont obligés de naviguer. C'est des petits pays, hein, entre la Chine et les États-Unis notamment, et qui sont obligés d'avoir, comme dit certaines personnes politiques dans ces pays-là, un socle. Donc le rhizome solide et le sommet souple.
Bon, Jeanne Fandra, moi j'ai une vraie question. J'ai des immenses bambous qui poussent chez moi. Je sais jamais quoi en faire une fois que je les ai coupés pour voir à nouveau le jour, parce que c'est le problème quand même. C'est qu'à un moment, ils dépassent ma fenêtre du dessus.
Mais c'est
vous avez un
nouvelle.
Plan pour moi? Qu'est-ce que je fais?
C'est une excellente nouvelle. C'est magnifique. Enfin, il faut les observer. Il faut les regarder. Il faut les écouter.
Donc je commence par ça, les observer, les regarder,
par ça, et on les coupe pas.
Et au bout d'un moment, vous allez atteindre le nirvana.
Je suis prête. Comment il s'appelle le vôtre, celui qu'il y a dans votre jardin, qu'on salue bien bas?
Sudongpo, qui est le nom en fait d'un grand lettré chinois que j'admire énormément, qui est poète, qui est peintre, calligraphe, qui a passé sa vie à peindre et écrire des poèmes sur les bambous.
Et justement, Michel Serres dit que tout écrit dans la vie, ça on peut le lire aussi dans votre livre, les océans écrivent.
Exactement.
Et les bambous écrivent et laissent des traces.
Tout à fait.
Merci Jeanne Fentran de nous avoir permis d'imaginer ensemble les contours d'une révolution bambou. C'est le nom de votre livre qui vient de paraître aux éditions des Équateurs.
Merci.